Le journal avec vous, bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour, les maisons de retraite autorisent à nouveau les visites au compte-gouttes dans de strictes mesures de sécurité. Mais c'était ça, ou laisser mourir de tristesse les personnes âgées. Nous serons dans un EHPAD de Bretagne. Déconfinement, l'extraordinaire complexité, le Premier ministre en présente aujourd'hui les principales options. Les demandes se multiplient pour que le port du masque soit obligatoire dans les lieux publics. Nous le verrons pour la SNCF. Quand les orages s'ajoute au virus, comment nettoyer la boue tout en respectant le confinement. Nous irons dans la Somme, où les habitants s'affairent avec difficulté. À Téhéran, Farid Bahadelra, accusé d'atteinte à la sûreté nationale, à nouveau devant ses juges. Et puis un an après l'incendie Notre-Dame à travers la peinture, exposition en ligne à découvrir à la fin de ce journal.
Les invités de la matinale, à partir de 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
l'académicienne Danielle Salnave pour un texte court et libre d'accès, la teuf et le virus.
Et à partir de 8h20, question militaire ce matin avec le chef d'état-major des armées, le général Lecointre. Question sur le Charles de Gaulle, sur l'opération Résilience, aussi sur les OPEX, les opérations extérieures. Et vos questions au général Lecointre. C'est comme toujours au 01 45 24 7000.
France Inter.
Mourir du virus ou mourir de tristesse?
C'est l'alternative épouvantable devant laquelle se retrouvent depuis des semaines les responsables d'établissements pour personnes âgées. Pour protéger ces personnes vulnérables du virus, on a fait le choix de les confiner strictement, seuls, dans leur chambre, pas de visite. Mais après 4 semaines de confinement, est arrivé ce qu'on craignait peut-être encore plus, le syndrome du glissement. Les personnes âgées se laissent partir, d'où l'initiative de certains établissements desserrer les taux, comme à l'EHPAD Boris-Antonov de Saint-Malo. C'est un reportage d'Hélène Chevalier.
Avant le confinement, Valérie allait voir sa grand-mère Anne-Marie pendant 2 heures tous les jours. Privée de sa petite fille, la presque centenaire a rapidement perdu sa joie de vivre.
Au bout de 3 semaines, même pas de confinement, ça commençait. C'était trop long pour elle. On l'appelait tous les jours, mais elle m'appelait jusqu'à 18 fois par jour. Et heureusement que la directrice m'a appelée et qu'elle a mis ça en place, parce que je pense qu'elle serait partie.
Sur les 80 résidents de l'EHPAD, ils sont une quinzaine à bénéficier de visites parloirs, comme les appelle sa directrice Valérie Mercier.
Alors c'est uniquement pour des résidents qui présentaient des gros signes d'un début de syndrome de glissement, avec une perte de l'appétit, de la tristesse, envie de rien faire. Les visites durent en moyenne 15 minutes, pas plus, avec une salariée tout le temps présente à côté du résident qui est assis et la famille juste à l'entrée de l'établissement qui est à environ 3-4 mètres de distance.
Et après 2 semaines de visite, la grand-mère de Valérie a à nouveau retrouvé le sourire.
J'ai vu hier une sacrée amélioration. Elle a retrouvé la joie de vivre un petit peu, même si elle parle que c'est toujours très long, elle n'en voit pas le bout, mais au moins elle commence à rigoler, à dire des bêtises. Et d'ailleurs, elle m'a appelé que 2 fois hier et 1 fois aujourd'hui.
L'EHPAD de Valérie Mercier a jusqu'ici échappé au Covid, mais sa directrice en est persuadée. Sans ses visites, plusieurs résidents se seraient laissés partir.
Hélène Chevalier, le département du Bas-Rhin autorise aussi à nouveau les visites, mais au compte-gouttes. Il faut dire que la prudence est toujours de mise. Le virus est encore actif en France. 642 personnes en sont mortes ces dernières 24 heures.
Le Premier ministre qui doit s'exprimer aujourd'hui restera très prudent sur la question du déconfinement.
Oui, car on ne passera pas le 11 mai, date fixée par le président de la République. On ne passera pas du noir au blanc brutalement. Il faudra choisir des options à trancher, c'est ce que devra présenter aujourd'hui Édouard Philippe en fin d'après-midi, mais il ne présentera pas son plan en détail. Ce plan sera sans doute présenté mercredi. Le PDG de la SNCF, lui, demande au gouvernement de rendre obligatoire le port du masque dans les trains. Il demande aussi un coup de pouce au gouvernement pour équiper chaque voyageur. Maxime Debs.
Sur ces masques réclamés par Jean-Pierre Farandou de la part de l'État, le Premier ministre ne devrait pas répondre explicitement aujourd'hui, mais la question est sur la table, posée, assure-t-on dans l'entourage d'Édouard Philippe, où l'on reste encore assez évasif sur le sujet. Le patron de la SNCF a été clair cette semaine, on ne pourra pas faire voyager les Français en imposant des distances de sécurité d'un à deux mètres entre les passagers. Ça reviendrait à charger les trains à minima et des wagons remplis à moins de 60%. Ce sont des trains qui ne sont pas rentables, ça ne marche pas. Résultat, le masque pour tout le monde reste encore la meilleure option. à cela près que la SNCF, qui a beaucoup perdu avec les grèves, notamment ces derniers mois, n'a pas les moyens d'équiper tous ses voyageurs, d'où la demande faite au gouvernement. Les discussions sont en cours, les contacts permanents, quotidiens, entre Jean-Pierre Farandou et l'exécutif, entre rentabilité et sécurité. Une chose est sûre, pour le PDG de la SNCF, il faudra être au rendez-vous du 11 mai.
Et les maires aussi demandent le port du masque obligatoire, notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle souhaite que le port du masque soit obligatoire aux heures de pointe dans les métros et RER après le 11 mai. Des discussions sont en cours avec le préfet de région, la ville de Paris, qui va aussi équiper les lieux publics de distributeurs de gel hydroalcoolique. Un week-end extrêmement difficile pour des dizaines d'habitants de la Somme, près d'Abbeville. Vendredi soir, de violents orages ont provoqué inondations et coulées de boue qui ont par endroits tout emporté sur leur passage. Depuis hier, ils nettoient tout en essayant, et ce n'est pas facile, de respecter le confinement, comme ici à Francières. C'est un reportage d'Alexandre Lepère de France Bleu Picardie.
Une pelle, un seau ou un râteau, tous les moyens sont bons pour enlever la boue dans les caves et les sous-sols. Mais si la solidarité était totale à Francières hier, difficile de respecter systématiquement les gestes barrières contre le coronavirus. Mathilde est bénévole à la Croix-Rouge, elle était aux côtés des habitants.
Tout le monde s'entraide, hein, forcément. Là, je pense que c'est un peu sorti de la tête des habitants du village, hein, le fait de devoir être à un mètre chacun l'un de l'autre pour pouvoir respecter le confinement.
Et comment aussi réparer les voitures endommagées par la montée des eaux? C'est la question que se pose Gladys, une habitante de Francières.
J'ai téléphoné à la gendarmerie pour savoir comment on peut faire pour récupérer une voiture pour moi pour aller travailler la semaine prochaine. Puis je me suis renseignée, voir un peu qu'est-ce que je dois marquer sur l'attestation. On a toujours aussi peur d'avoir un PV aussi.
Dans un tel contexte, l'émotion est encore présente. Gladys a passé des dernières heures difficiles.
On a pleuré parce que on est fatigué, espérant que ça ne recommencera pas. C'est vraiment impressionnant, on se demande comment ça se fait qu'on a eu autant d'eau.
Et à Francières, l'opération nettoyage va continuer ce dimanche. Même chose pour toutes les communes de l'ouest de la Somme, frappées par le violent orage de vendredi soir.
La pandémie qui ne doit pas masquer d'autres actualités. Par exemple, le sort de Fadela Adelka, toujours en suspens. En Iran.
Oui, après la libération de l'universitaire français Roland Marshall, sa collègue franco-iranienne Fariba Adelra est toujours en prison à Téhéran où son procès doit reprendre devant le tribunal révolutionnaire. Il s'était ouvert le 3 mars dernier avant d'être aussitôt interrompu, faute d'avocat. La chercheuse est inculpée de deux chefs d'accusation, propagande contre la République islamique et collusion en vue d'atteinte à la sûreté nationale. Mais c'est un dossier complètement vide, explique Béatrice Hibou. Elle est directrice de recherche au CERI de Sciences Po et membre du comité de soutien de Fariba Adelra.
Comme on l'a vu pour Roland Marshall, on est dans l'opacité la plus complète. On ne sait rien. On ne sait pas du tout si ce procès est important ou non. Il peut être important parce que ça peut être de toute façon un indicateur de la façon dont le cas de Fariba Adelra va être considéré politiquement, puisque le procès est totalement partial et que le dossier est vide. Donc l'indication de l'accusation va être une indication de comment on va traiter le problème. En ce sens-là, le procès est très important, mais en même temps, il n'est pas si important que ça, puisque pour le cas de Roland Marshall, la question est ailleurs. Et cet ailleurs, on ne sait pas pour le cas de Fariba Adelra si c'est un échange, comme pour le cas de Roland Marshall, ou bien d'autres négociations diplomatiques, mais qui, là, me dépassent complètement.
Et son comité de soutien organise une manifestation sur Internet. C'était il y a un an, Notre-Dame en flamme, un incendie qui ravageait la charpente, la flèche notamment. Aujourd'hui, Paris Musée propose une exposition en ligne pour redécouvrir l'histoire de Notre-Dame au travers des collections des musées de la ville de Paris. Isabelle Pasquier.
Émotion devant le plan de la première flèche de Notre-Dame de Paris, construite au XIIIe siècle, et devant la maquette de la nouvelle flèche, signée par Viollet-le-Duc. Et on zoome sur un dessin au lavis de Victor Hugo. Cette exposition virtuelle nous montre la transformation de ce vaisseau de pierre et aussi sa place dans la grande histoire de Paris. Charles Villeneuve de Gentil, directeur des collections de Paris Musée.
Dans cette visite virtuelle, on a des gravures du XVIIe siècle qui présentent l'état de Notre-Dame à l'époque, un état ancien qu'on a perdu puisque Notre-Dame a été beaucoup modifiée aux alentours de la Révolution française et puis ensuite avec la grande rénovation entreprise par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Donc on voit l'état de la cathédrale avant Et puis, on voit aussi des moments plus contemporains, plus proches de nous, comme la libération de Paris, puisque Notre-Dame a été le lieu d'affrontement pendant la libération de Paris, et aussi d'une messe lorsque les nazis ont été chassés de la capitale.
Incroyable photo de Robert Doisneau, tout près de Notre-Dame, des résistants qui lancent des cocktails Molotov et la libération de Paris avec la foule sur le parvis. Très glamour, des amoureux sur les marches des tours, pris par Cartier-Bresson, et un tableau de Robert Delaunay, les couleurs de l'espoir, la flèche de Notre-Dame dans un arc-en-ciel.
Et Dieu sait qu'on a beaucoup besoin d'espoir en ce moment. C'est donc une exposition en ligne proposée par Paris Musée.
Dieu sait, comme vous dites. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.